Alors, pour changer un peu, l'histoire de Saint Julia, Fanum Julii, des divinités païennes. Saint Julia, raconté par Madame Bellaval et Monsieur Mercier.
Vous êtes avec là, hein?
Mettez-vous en place, mettez-vous en place.
C'est difficile de parler des origines de Saint Julia parce que Saint Julia, d'après le livre de, qui a été écrit par l'abbé Aragon à la fin du dernier siècle, nous dit que Saint Julia remonterait à une date immémoriale. Mais enfin, la tradition veut que l'église actuelle a été bâtie sur un temple païen qui lui-même aurait été bâti sur un temple grec. Du reste, le cimetière a la forme d'un tumulus romain et M. Mercier croit bien que c'est les fondations des fossés qui entouraient la ville qui ont été ramassées en ce lieu pour faire cette espèce de tumulus. Maintenant, évidemment, l'église a été date du XIe siècle, il reste la vieille sacristie, les fonts baptismaux et le clocher. Puis, elle a été remaniée, évidemment, au cours des siècles, parce que Saint-Julien a eu beaucoup à souffrir des guerres de religion, des guerres des Albigeois. La ville était fortifiée, elle avait deux portes, la porte de Cerse et la porte d'Autun. Et actuellement, il ne reste plus que la porte de Cerse, la porte d'Autun ayant été complètement démolie. Et il reste encore ce que l'on appelle maintenant la mare, mais qui, dans ma jeunesse, s'appelait le fossé, c'est-à-dire les anciens fossés sur une partie du village. Le reste, les fortifications, n'existent plus. Mais nous ne resterons pas sur cette histoire un peu trop longue de Saint-Julien à travers les siècles. Simplement, il faut faire ressortir que Marguerite de Valois, ayant eu la ville de Saint-Julien en dot, lorsqu'elle s'est mariée avec Henri IV, a refait le cœur de l'église qui s'était effondré. Elle a fait beaucoup pour Saint-Julia et du reste on prétend qu'elle y avait une maison mais que vraisemblablement elle n'a jamais habité. Et il y a au-dessus de la mairie le blason de la maison de Valois, c'est-à-dire les trois fleurs de lys avec la salamandre ayant la couronne royale. À la suite des temps, au moment de la Révolution, il y a eu une histoire assez rare. Le chef du district de Revel a demandé à ce qu'on descende les cloches pour les envoyer à Toulouse pour les faire fondre. Alors la population a laissé descendre les cloches du clocher, mais s'est opposée absolument à ce qu'elles aillent se faire fondre à Toulouse. Alors la nuit, ils sont arrivés dans le village avec des chevaux ou des bœufs, on ne sait pas très bien, et des charrettes dont les roues étaient empaillées, ce qui ne empêchait toutes sortes de bruits. On a chargé les cloches, on les a enterrées dans un champ qui venait d'être labouré le long de la route de Toulouse, et puis ensuite, comme on ne les trouvait pas assez en sécurité, on les a amenées dans une sorte de petite mare, de petit fossé qui s'appelle l'Alfum Campanus, qui est à la limite de Saint-Félix et de Saint-Julia et d'Auriac. Et c'est là qu'elles sont restées tout le temps de la Révolution. Maintenant, il faut dire aussi que Saint-Julia, ayant eu beaucoup à souffrir de toutes les attaques diverses pendant les guerres de religion, pendant les siècles qui ont suivi, même probablement pendant l'époque romaine ou gallo-romaine, Saint-Julia est rempli de silos. Tout le sous-sol de Saint-Julien est rempli de silos. Il y a également des souterrains que l'on découvre petit à petit ou qui sont murés petit à petit. Et évidemment, tout cela serait à visiter, mais nous sommes un petit peu éloignés de la route, surtout par la faute d'un archevêque qui a refusé que la route de Revel à Toulouse, qui passe par Caraman, montent à Saint-Julia parce qu'ils ne voyaient pas la nécessité de faire monter les gens pour les faire redescendre. Mais il y a aussi, il faut aussi expliquer, le nom de Saint-Julia de Grâce-Capou. On prétend qu'au cours d'une attaque, Saint-Julia étant assiégé de tous les côtés, on pensait tenir Saint-Julia par la famine, mais d'une part évidemment avec les silos qui devaient être suffisamment garnis et par toutes sortes de provisions, peut-être un siège qui n'était pas suffisamment long. Saint-Julia a pu tenir et lorsque les assiégeants allaient donner l'assaut pour essayer de conquérir Saint-Julia, un habitant est sorti au-dessus d'une porte, par une fenêtre au-dessus d'une porte, il a montré une paire de chapons gras, ce qui a valu à la ville de Saint-Julia le nom de Grâce-Capou, d'après la tradition. Évidemment, il y a peut-être une autre origine que nous ne connaissons pas. Et par la suite, Saint-Julia a coulé tranquillement des jours paisibles, mais vraisemblablement, elle a été une ville importante vers le 18e et le 19e siècle, et puis elle n'a cessé de décroître depuis. Pour quelles raisons exactement, on n'en sait rien. Peut-être son éloignement de la route. Dans tous les cas, il y a quand même à signaler que dans les dernières années, je crois que c'est en 1942, nous avons vu le décès d'un Saint-Julianais, si l'on peut dire, qui est Édouard Estonnier, l'académicien, dont la famille était originaire de Saint-Julia, mais qui n'y a pratiquement pas vécu. Mais il a décrit tout de même Saint-Julia et la région du Lauragais dans certains livres, comme « L'infirme aux mains de lumière », ou « Les choses voient », ou d'autres titres qui m'échappent. Voilà, maintenant je passe la parole à M. Mercier, qui va vous parler probablement en patois.
Madame Bellaval, avant de partir, Madame Bellaval, je voudrais vous demander, je vous remercie, que soi-disant qu'à Saint-Félix, ils avaient volé les orgues qui étaient natifs de Saint-Julia.
Les orgues n'ont jamais été à Saint-Julia, les orgues ont toujours été à Saint-Félix. Il faut rendre à Saint-Félix ce qui est à Saint-Félix.
Ah bon, parce qu'on avait entendu ça.
Maintenant, il est bien évident que Saint-Félix et Saint-Julia ont toujours été jalouses l'une de l'autre. D'autant plus que si on regarde le livre de l'abbé Aragon, le livre qui a été fait à la fin du siècle dernier, et il est dit que Saint-Julia, le curé de Saint-Julia a été nommé par le chapitre de Saint-Félix. Et tout au long du livre, on voit des difficultés qui surgissent parce que le presbytère est en mauvais état ou l'église est en mauvais état et que le chapitre de Saint-Félix ne veut prendre aucune responsabilité dans les réparations à faire et dans toutes ces choses-là. Alors, il faut quand même leur reconnaître qu'ils avaient les orgues et qu'ils ne nous les ont pas prises.